France Musique. La chasse aux sorcières. Les accords de paix signés après le Second Conflit mondial ne suffisent pas à calmer les rivalités et ambitions dominatrices entre soviétiques et américains. Tous deux victorieux s'affrontent désormais sous une forme, certes moins sanglante, mais tout aussi tendue. Une longue période de méfiance et de peur s'installe désormais entre l'URSS et les États-Unis, sans pour autant déclencher une guerre ouverte. Dès lors, dans cette atmosphère internationale tendue, le président américain Harry Truman rompt avec la politique de son prédécesseur, Franklin Roosevelt, et redéfinit les grandes lignes de la politique extérieure des États-Unis. Alors que l'influence du communisme croît en Corée et au Vietnam, les États-Unis mettent en place la doctrine Truman. Le 12 mars 1947, le président présente devant le Congrès américain sa doctrine du containment, inspirée par George Kennan. Il s'agit de fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l'expansion soviétique. Sans nommer l'Union soviétique, Truman dénonce la violation des accords de Yalta et expose sa théorie des dominos. Par l'endiguement de la progression communiste, la doctrine Truman pose les États-Unis en défenseurs d'un monde libre face à l'agression de l'URSS. Peu à peu, se développe aux États-Unis une véritable paranoïa anticommuniste. Dès 1946, le président Truman met en place une commission chargée d'enquêter sur la loyauté des fonctionnaires fédéraux. La loyauté, rien n'est plus vague. Mais sont considérés comme déloyaux les partisans du totalitarisme, du fascisme, du communisme et de tous ceux qui prêchent la subversion du régime. Les administrations reçoivent, dès 1947, la consigne d'interroger leurs employés et de renvoyer éventuellement tous ceux susceptibles de menacer la sécurité des États-Unis. Puis à partir de 1951, de simples doutes suffisent à entraîner le renvoi des fonctionnaires. Ainsi, de 1947 à 1954, 1054 fonctionnaires sont renvoyés. Ils sont accusés d'appartenir à des organisations immorales, d'immoralité sexuelle et d'homosexualité, ou encore d'avoir recouru à l'usage de la drogue. Ainsi, le compositeur Leonard Bernstein, par son engagement humaniste, son ouverture politique avec ses messages de paix contre la guerre du Vietnam et son homosexualité assumée, alarme les services de renseignement intérieur. Son nom figure dès lors sur une liste officielle du FBI. Sa réponse, sous forme de dénonciation à peine voilée, s'exprime à travers l'opérette du nom de Candide, en référence à l'œuvre du philosophe Voltaire. La star d'Hollywood, Charlie Chaplin, n'échappe pas lui non plus à cette vague déferlante. Accusé d'être à la solde de Moscou, Charlie Chaplin est mis sous écoute. Sa vie privée scrutée, ses comptes dépouillés, ses films analysés. En 1952, alors à Londres pour présenter son film « Les feux de la rampe », il apprend l'annulation de son visa de retour vers les États-Unis. Dans son autobiographie, Charlie Chaplin revient sur ce triste épisode. Que je revienne ou non dans ce triste pays avait peu d'importance pour moi. J'aurais voulu leur dire que plus tôt je serais débarrassée de cette atmosphère haineuse, mieux je serais, que j'étais fatiguée des insultes et de l'arrogance morale de l'Amérique. En pleine guerre froide, une peur généralisée, une hystérie collective s'empare des États-Unis. Le western de Fred Zinnemann, Le train sifflera trois fois, sorti en 1952, stigmatise, certes de façon allégorique, ce climat de terreur. Eisenhower est désormais président des États-Unis et l'affaire des époux Rosenberg et leur exécution stupéfient le monde entier. Arrêté pour espionnage au profit de l'URSS au cours de l'été 1950, ils sont jugés coupables le 5 avril 1951 et exécutés le 19 juin 1953. Dans la prison de Sing Sing, dans l'État de New York, un homme, puis une femme, sa femme, se succèdent sur la chaise électrique. Trois décharges sont nécessaires pour le premier, cinq pour la seconde. C'est la première fois qu'une peine de mort est prononcée en période de paix, malgré tout, pour les États-Unis. À l'origine de ce vent de folie qui souffle sur l'Amérique, un simple et obscur sénateur du Wisconsin. Les Américains découvrent le 9 février 1950 à Wheeling, petite ville de l'État de Virginie, Joseph McCarthy. Invité pour célébrer la naissance d'Abraham Lincoln, Joseph McCarthy prononce un discours qui crée un véritable traumatisme chez les auditeurs, puis dans l'ensemble du pays, comme une véritable onde de choc. La presse reprend ses propos et analyse ses révélations. « Le communisme ne cesse de gagner du terrain », affirme-t-il, « et le monde libre recule ». L'Amérique porte une lourde responsabilité de n'avoir su se montrer digne de sa mission. L'ennemi est dans la place. Il faut le débusquer et mener croisade avec la plus grande énergie. McCarthy est immédiatement transformé en vedette de l'actualité. Sa personnalité est à la fois attachante et odieuse, mais surtout complexe. La politique l'a toujours attiré, bien que ses opinions soient fluctuantes et sa culture fort limitée, se résumant au peuple, la liberté et l'Amérique. Une idéologie populiste sur laquelle il s'appuie et qui anime le Middle West depuis un demi-siècle. Mais son mandat de sénateur tire à sa fin et il lui faut sortir de l'ombre pour être réélu. C'est alors que des amis lui conseillent de mener campagne contre les infiltrations communistes. Il prononce dans la foulée son fameux discours de Wheeling. Deux mois plus tard, lorsqu'un journaliste lui demande depuis combien de temps il a découvert le problème du communisme, il répond « depuis deux mois et demi ». Le McCarthyisme est né, pour reprendre le nouveau mot inventé par le célèbre caricaturiste Herb Bloch. La chasse aux sorcières est désormais ouverte et rappelle un triste épisode de l'histoire américaine avec le procès des sorcières de Salem. Une centaine de personnes avaient alors été arrêtées pour sorcellerie entre 1692 et 1693, dont 20 d'entre elles exécutées. C'est le français Raymond Rouleau qui adapte en 1957 la pièce de théâtre d'Arthur Miller, Les sorcières de Salem, et permet ainsi d'évoquer le McCarthyisme à travers la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Mais c'est seulement en 1973 que le McCarthyisme devient un sujet à part entière, comme en témoigne, malgré les scènes censurées, le film de Sidney Pollack, Nos plus belles années. What's too painful to remember? Simply choose to forget. So it's the laughter we will remember. Whenever we remember the way.
réécouter sur francemusique.fr.